Bonjour à chacun et à chacune. Alors ces dernières semaines, j'ai eu le privilège d'être immergé dans des temps de célébration au milieu d'en moyenne 900 personnes. Donc on a vraiment vécu des temps, alors à la fois de louanges, d'adoration extraordinaire, des temps d'enseignement aussi, vraiment ressourçants. Ce temps de l'Ascension, on était au congrès Évangile 21 en Suisse, et puis Aloïs dira un petit mot tout à l'heure sur la manière dont il a vécu ce temps-là. Mais sur le chemin du retour, je partageais que l'église locale de Cré me manquait, et combien j'étais heureux de revenir ici, de vous revoir, parce que finalement, il y a deux dimanches qui sont passés où je n'étais pas là. Et voilà, c'est beaucoup de joie de se retrouver ce matin ensemble, en plus petit nombre. Mais c'est tellement bon d'être là avec vous et ensemble de célébrer notre grand Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aime pas le moment du départ. Je parle de ce moment de séparation avec une personne ou un groupe de personnes ou peut-être même un lieu auquel on est profondément attaché. Je me souviens de ma période de fiançailles où il fallait se quitter avec Priscille après un week-end passé ensemble. Le dimanche soir arrivait toujours trop vite. On aurait tellement voulu ralentir le temps. Certains parmi vous ont peut-être vécu quelque chose de semblable en quittant leur famille ou de bons amis pour partir vivre à l'étranger, pour des études, un travail. Et même lorsqu'on sait pourquoi on part, la séparation reste difficile. Et finalement, en 2026, on réalise plus que jamais combien la technologie contribue à effacer cette distance, à abolir cette distance. On a les appels vidéo, WhatsApp, les messages vocaux, les réseaux sociaux. En fait, on cherche à rester proche de ceux que l'on aime. Il y a quelques jours, Ritesh, que vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeune originaire de l'Inde qui a passé une année avec nous et qui est donc reparti en Inde. Ritesh m'a envoyé une vidéo depuis l'Inde. Et honnêtement, ce n'était pas vraiment différent des vidéos qu'il pouvait m'envoyer quand il était parfois à Armorin, à peine un kilomètre de chez nous. Et je me dis parfois que je n'aurais certainement pas vécu mon année en Angleterre ou mon temps de fiançailles de la même manière si j'avais eu accès à ces outils numériques. Et mes parents qui sont présents ce matin, qui ont passé plusieurs années en mission, seraient certainement du même avis. Ça aurait pris un autre goût d'avoir accès à toute cette technologie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un départ. Mais pas d'un départ ordinaire. Le départ de Jésus de cette terre. On termine ce long week-end de l'Ascension en souvenir de ce moment où Jésus a quitté cette terre pour retourner auprès de son Père. Mettez-vous un petit peu à la place des disciples. Ça fait 3 ans qu'ils côtoient Jésus au quotidien. Ils l'ont entendu enseigner, ils l'ont vu guérir, ils l'ont vu pleurer, ils l'ont vu souffrir. Ils ont assisté à sa mort, puis ils ont été témoins de sa résurrection. Et depuis sa résurrection, ça fait 40 jours qu'ils sont avec lui. Ils ont encore mangé avec lui du poisson grillé. Ils ont parlé avec lui, ils l'ont touché même. Jésus vient juste de leur annoncer quelle sera la mission quand lui s'en ira. proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile à toutes les nations. Appeler les hommes et les femmes à se repentir pour être pardonnés de leurs péchés, c'est-à-dire à se détourner de leur vie sans Dieu pour se tourner vers Dieu. Et il leur a bien sûr aussi promis qu'il ne serait pas seul. Après son départ, le Saint-Esprit viendra et viendra vivre en eux. Comment est-ce que les disciples ont vécu ce départ de Jésus ? Honnêtement, après tout ce qu'on vient de dire, on pourrait s'attendre à un moment triste. On pourrait imaginer les disciples découragés, complètement perdus, complètement effondrés. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Je vous invite à lire le passage qui sera très court ce matin dans l'évangile de Luc, la fin de l'évangile de Luc, chapitre 24, et les tout derniers versets 50 à 53. Il, donc Jésus, les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Voilà ce qui s'appelle un départ mémorable. Sans aucun doute pour ses disciples, un départ qui va les marquer. Un départ qui sera une source de motivation dans la mission qui les attend. Et il me semble que on peut tirer de ce court récit trois sources de motivation pour les disciples. La première source de motivation, c'est la bénédiction de Jésus. Regardons ce que fait Jésus au moment de partir. Luc nous dit, il leva les mains et les bénit. Je ne sais pas pour vous, moi je suis passé quantité de fois sur ce passage sans faire attention à vraiment comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Mais pour un lecteur juif de l'époque, ce geste est tout sauf anodin. C'est le geste sacerdotal par excellence. C'est-à-dire le geste que faisaient dans l'Ancien Testament les grands prêtres. Dans Lévitique, chapitre 9, verset 22, il nous est dit que Aaron, le grand prêtre, lève les mains pour bénir le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prêtres représentaient le peuple devant Dieu et ils transmettaient au peuple la bénédiction de Dieu. Ce geste évoquait en fait la faveur divine, sa protection, la paix et la communion avec Dieu. Donc Jésus monte au ciel en exerçant le ministère du parfait grand prêtre. Il ne quitte pas ses disciples dans l'indifférence. Il part en les bénissant. Bénir, ça signifie littéralement dire du bien ou célébrer. Et une autre chose particulièrement remarquable, où j'avais jamais fait attention non plus, c'est que l'ascension de Jésus n'interrompt pas sa bénédiction. Le texte ne dit pas que Jésus les bénit puis qu'il s'élève dans le ciel. Il dit, pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Jésus part au milieu de sa prière. les mains toujours levées. Ce détail nous montre quelque chose d'essentiel. La bénédiction de Jésus envers ses disciples n'est pas un acte ponctuel, mais quelque chose qu'il fait continuellement. C'est l'Épître aux Hébreux qui revient à plusieurs reprises sur le ministère de grand prêtre de Jésus. On peut lire dans Hébreux au chapitre 7, le verset 25. « Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Quand on regarde à la vie de Jésus, on se rend compte que la prière a imprégné toute sa vie et tout son ministère. Il a prié pour se préparer au ministère. Il a prié régulièrement dans son ministère, dans le courant de son ministère. Il a prié alors qu'il était sur la croix. Il a prié avant la croix. Et lors de son ascension, Jésus prie et bénit ses disciples. Jésus est toujours vivant pour intercéder, et en ce moment même, encore aujourd'hui, Jésus prie pour nous. Combien c'est beau, combien c'est bon de se rappeler cela. Les disciples allaient bientôt entrer dans une mission difficile, annoncer l'évangile aux hommes et aux femmes de toutes les nations. Et dans cette mission, ils allaient faire face à de lourdes épreuves, à du rejet, à de l'humiliation, à de la moquerie, à de la souffrance. Et cette mission de partager l'évangile reste difficile encore aujourd'hui, pour nous, disciples de Jésus. Témoigner de Christ peut nous coûter cher. Certains, et même en France, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour cela, certains perdent des relations familiales parce qu'ils ont pris la décision de suivre Jésus. D'autres subissent des moqueries, de l'opposition, et parfois même des persécutions. Certains n'accèdent même pas à certains postes de responsabilité dans des entreprises à cause de leur foi. Et bien sûr, ça peut aller jusqu'à perdre sa vie. On ne le vit pas en France, mais dans des pays pas si loin que cela, c'est le cas pour nos frères et sœurs. Parfois, la difficulté ne vient pas seulement de l'extérieur. Nous pouvons aussi être découragés intérieurement. Si souvent nous pouvons nous sentir insuffisants, fatigué, faible. Dans ces moments-là, pour les disciples de Jésus comme pour nous aujourd'hui, combien il est bon et renouvelant d'entendre et de se rappeler à nous-mêmes cette vérité que Jésus nous bénit continuellement. Nous avons reçu en lui l'approbation de Dieu. Nous sommes continuellement adoptés, rachetés, pardonnés, héritiers, pleinement aimés et chéris de Dieu notre Père. Sans cette bénédiction, nous chercherons l'approbation dans les relations, dans le succès, ou toute autre chose qui finira par nous décevoir. Il y a cette question qui est revenue dans des temps d'enseignement qu'on a eu à Genève et que je trouve totalement pertinente encore pour nous ce matin. Quand les choses sont difficiles dans nos vies, qu'est-ce qui nous ressource? Vers quoi nous tournons-nous pour être renouvelés intérieurement? Cette prière, cette intercession constante de Jésus est aussi un encouragement à faire de la prière une activité centrale de nos vies. Après l'ascension, Les disciples ont profondément compris cela. Actes chapitre 1, verset 14 nous dit « Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » L'Église naissante comprend qu'elle dépend entièrement de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui tout autant dépendants de notre Père Céleste. Nous vivons dans une époque qui valorise l'efficacité, l'instantanéité, la stratégie, les compétences. Et même dans l'Église, nous pouvons parfois croire que tout dépend, ou beaucoup de choses dépendent ou reposent sur nos propres capacités. Mais la mission de Dieu avance d'abord par la prière. La prière précède l'action. Et nous pouvons ensuite agir avec confiance en sachant que Jésus est au ciel et qu'il intercède continuellement pour nous. Deuxième source de motivation, l'ascension de Jésus, verset 51. « Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. » J'ai cette question pour nous. Pourquoi est-ce qu'à la fin des films, les super-héros quittent le lieu en s'élevant vers le ciel ? Parce qu'un tel départ a quelque chose de spectaculaire. Et je crois que les réalisateurs d'Hollywood n'ont rien inventé. Il y a une inspiration de près ou de loin avec l'ascension de Christ. Elle marque l'élévation de Jésus au plus haut rang qui soit. Tout au long de l'évangile de Luc, on a vu et on a assisté à l'humiliation de Jésus. Il est venu au monde dans la faiblesse, dans l'humilité, comme un petit enfant dans une crèche. Il a connu la fatigue, le rejet, la souffrance. On l'a dit, il a été méprisé, condamné, crucifié. Mais maintenant, après la glorieuse résurrection, vient ce moment où le Père l'élève. L'ascension est une proclamation publique que Jésus-Christ est Seigneur. Elle révèle sa gloire divine de manière éclatante. Lors de sa résurrection, Jésus a obtenu la victoire sur la mort. Lors de son ascension, il entre dans son règne céleste. Le Nouveau Testament affirme que Jésus s'est assis à la droite du Père. Et cette expression signifie qu'il partage toute l'autorité royale de Dieu. Autrement dit, l'histoire de notre monde n'est pas livrée au hasard. Et même si, encore aujourd'hui, quand on écoute ce qui se passe dans le monde, quand on écoute l'actualité, que cela nous semble absolument chaotique, eh bien, Christ est celui qui règne. Nous vivons dans un monde rempli d'inquiétudes. Les crises internationales, les tensions politiques, les conflits, les catastrophes, l'incertitude économique. Beaucoup de personnes, y compris des chrétiens, vivent avec une profonde angoisse concernant l'avenir. Certains traversent aussi, bien sûr, des situations personnelles difficiles. La maladie, la solitude, le deuil, la crainte du lendemain. Ce moment de l'ascension nous rappelle que Jésus n'a pas perdu le contrôle. Au contraire, il est élevé. Il règne au-dessus de toute autorité. Aucun événement, aucune circonstance, aucune puissance n'échappe à sa souveraineté. Combien cette vision de Christ montant au ciel est réconfortante dans ce monde chaotique où l'on peut croire parfois avoir l'impression que le mal aura le dernier mot. Mais il n'en est rien. Jésus est Seigneur. L'ascension, c'est aussi le rappel que Jésus est entré dans le ciel comme précurseur, comme préfiguration de ce qui va se passer ensuite pour son peuple. Jésus a lui-même déclaré dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelle espérance extraordinaire! Jésus prépare une place pour les siens. Ça veut juste dire que notre avenir ne s'inscrit pas dans le monde actuel, dans ce monde d'aujourd'hui, sur cette terre. Notre espérance ne repose pas, notre espoir ne repose pas dans la stabilité politique. Notre espérance ne repose pas dans la qualité de notre santé ou dans nos réussites terrestres. Notre espérance est céleste. Et parce que nous sommes unis à Christ par la foi, l'ascension de Jésus devient notre avenir. Son ascension dans un corps glorifié annonce notre future ascension dans un corps qui sera aussi glorifié. C'est l'apôtre Paul qui affirme que les croyants sont déjà spirituellement, par cette union avec Christ, assis dans les lieux célestes avec lui. Waouh ! Je ne sais pas comment vous vivez cela, comment vous comprenez cela, moi ça me dépasse. Mais on est déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. L'ascension nous rappelle notre véritable demeure. Nous appartenons déjà, nous faisons déjà partie du royaume de Dieu quand nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Notre mort terrestre ne sera qu'une porte, un passage à un moment de transition vers notre demeure éternelle auprès de Jésus. C'est Billy Graham qui disait, j'ai plus les termes exacts parce que là, je pense à cela à l'instant même, mais quand je serai mort, ne soyez pas triste, j'ai simplement déménagé. Troisième et dernière source de motivation, l'adoration joyeuse de Jésus, versets 52 et 53. Luc écrit, « Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Ces versets magnifiques montrent une certaine transformation des disciples. Pendant longtemps, ils avaient une compréhension incomplète de Jésus. Ils l'aimaient, ils le suivaient, mais ils ne saisissaient pas encore pleinement son identité. Même après la résurrection, ils ont connu encore le doute, la peur. Mais ici, il y a quelque chose qui change. Ils se mettent à adorer Jésus. Alors, c'est quelque chose qui peut sembler un petit peu banal comme information, parce que nous adorons régulièrement Jésus. On l'a fait ce matin, on continuera de le faire après ce temps de prédication. Mais dans l'évangile de Luc, cette réaction est exceptionnelle. C'est la première fois que les disciples adorent Jésus. Seul Dieu mérite d'être adoré. Avec l'ascension de Christ, les disciples comprennent. Jésus n'est pas seulement le Messie, il est aussi le Seigneur, le grand roi de l'univers, l'objet sublime et digne de notre adoration. Et les disciples, à ce moment-là, rejoignent les mages du début de l'évangile de Luc qui avaient plié le genou devant le roi des rois. Et puis, il y a ces mots étonnants qui arrivent. Grande joie, littéralement, on pourrait dire une méga joie. Une méga joie. C'est exactement l'expression que Luc utilise, vous vous rappelez quand ? Avec les bergers, et juste après, avec les mages, ils ont eu une méga joie en revoyant l'étoile. On l'a dit, cette méga joie semble paradoxale. Comment, et c'est encore une question que je nous pose, comment peut-on voir partir quelqu'un qu'on aime et rentrer chez soi rempli d'une méga joie? Est-ce que vous avez une idée? Oui, le Saint-Esprit qui va travailler leur cœur, ouais. Qui c'est qui a... Quand on sait aussi qu'on va revoir la personne. Et c'est exactement la promesse que les disciples ont reçue. Elle n'est pas détaillée ici dans l'évangile de Luc, mais si on regarde l'épisode parallèle dans Actes, on voit que Luc précise, acte 1, versets 10 à 11, « Et comme les disciples avaient les regards fixés vers le ciel pendant que Jésus s'en allait, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » L'ascension de Jésus contient donc déjà en elle-même la promesse de son retour. Un retour que Jésus avait annoncé à plusieurs reprises et qu'on peut lire dans les évangiles. Un retour qui sera personnel, Jésus revient personnellement, Matthieu 24, 44. Un retour qui sera visible, tout œil le verra, Matthieu 24, 30. Un retour qui sera soudain, Matthieu 24, verset 27, et un retour qui sera triomphal. Luc, chapitre 21, verset 27. Cette espérance du retour de Christ a profondément marqué les premiers chrétiens, dont certains pensaient même assister de leur vivant à leur retour de Christ et s'étaient même mis à arrêter de travailler, disant « Seigneur, reviens demain ». On peut attendre tranquillement et puis Paul va leur rappeler, leur dire « Oh les gars, on ne sait pas quand Christ revient, remettez-vous au travail. » C'est ça. Cette perspective du retour de Jésus produisait de la joie car elle signifie non seulement la fin définitive du mal, de la souffrance et de la mort qui s'en suivront, mais le retour de Jésus signifie aussi l'accès à une pleine et parfaite communion avec Jésus lui-même. Combien cette joie du retour de Jésus est aussi une source de motivation pour la mission, pour parler de Jésus autour de nous, pour permettre à d'autres d'entendre cette bonne nouvelle qu'une réconciliation avec Dieu est encore possible aujourd'hui. Permettre à ces personnes de saisir l'invitation à placer leur confiance en Jésus-Christ, en sa vie, en sa mort, en sa résurrection, en son ascension et en son retour certain. Permettre à ces personnes d'avoir la joie de se joindre à nous et de fléchir ensemble les genoux devant notre Seigneur et Sauveur, de l'adorer joyeusement. ces quelques versets de l'Évangile adressent donc ce matin encore un appel à tous ceux pour qui cette fête de l'Ascension n'est rien de plus qu'un jour férié dans leur calendrier. L'Ascension proclame haut et fort que Jésus-Christ est Seigneur. Un jour, tout être humain devra le reconnaître et plier le genou devant lui. Et si ce n'est pas le cas encore pour vous ce matin, Jésus vous invite à le faire sans tarder dès aujourd'hui. Je conclus. L'Ascension est donc un moment propice pour méditer sur ces trois grandes sources de motivation à poursuivre cette mission vers laquelle Jésus-Christ nous envoie. La bénédiction de Jésus nous rappelle qu'il intercède continuellement pour nous. Son ascension nous rappelle que c'est lui qui règne aujourd'hui et qu'il nous prépare en ce moment même une place. L'adoration et la joie des disciples nous rappellent qu'un jour, et on se rapproche de ce moment, Jésus va revenir. Jésus est parti pour régner, pour intercéder, pour préparer notre avenir, et il va revenir. Que ces vérités nous remplissent de joie et reboostent notre désir de partager de tout cœur cette bonne nouvelle de l'Évangile à chaque fois que le Seigneur ouvre une porte pour cela. Je vais prier, puis on va laisser les collégiens quitter, puis on va prendre ce temps de louange et d'adoration.